Frères et sœurs, quelle richesse avons-nous aujourd'hui à travers ces pages de l'Ancien et du Nouveau Testament. Quelle richesse, quelle merveille. J'espère que vous avez pris le temps de les lire, le temps de les accueillir, le temps de les méditer, si possible en famille. Si nous commençons par ordre avec la première lecture, dans ce deuxième livre des Chroniques, qui est un livre assez tardif, vers 200, entre 230 et 250 à peu près avant Jésus-Christ. Donc c'est déjà une relecture, si on peut dire, de l'histoire sainte. Qu'est-ce que ce texte nous dit? Qu'est-ce qui nous est révélé? Alors on nous parle de l'infidélité, l'idolâtrie du peuple. D'abord les chefs des prêtres et tout le peuple. Ils claudiquent des deux pieds. Un petit peu de prière pour le Seigneur à Jérusalem et un peu de prière aussi pour les dieux des nations païennes. On ne sait jamais. Si on est multicarte, on multiplie peut-être les chances d'un salut ou en tout cas déjà de bénédiction sur la terre. Quelle est l'attitude de Dieu? La compassion. Sans attendre. Dans le texte, c'est de bon matin, dès le lever du jour, sans attendre, sans se lasser, il leur envoyait des messagers, et encore des messagers, car il avait pitié de son peuple et de sa demeure, là où reposait sa gloire. Il avait pitié, le verbe utilisé, c'est « il épargnait, il s'abstenait de punir son peuple ». Il espère en nous, toujours, toujours. Alors, il envoie les messagers, les prophètes, et dans le texte, nous entendrons le nom du prophète Jérémie, environ 300 ans avant. Réaction des hommes, l'endurcissement. Il tournait en dérision les prophètes, il méprisait les paroles de Dieu, il se moquait des envoyés. Finalement, qu'est-ce que le Seigneur peut faire d'autre? Il n'envoie pas encore son Fils, il l'enverra plus tard. Mais qu'est-ce qu'il peut faire d'autre? Le Seigneur prendra l'image de la vigne. J'ai acheté un terrain, j'ai planté une vigne, évidemment de la bonne vigne. J'ai creusé autour, j'ai mis une protection, une muraille, j'ai mis un pressoir, une tour de garde pour la défendre. J'ai tout mis et puis il y avait des serviteurs, mais ils n'ont pas rendu le fruit de la vie. Alors, dit le texte, il n'y eut plus de remède à la fureur grandissante du Seigneur contre son peuple. La fureur, la colère, l'ardeur, mais aussi la passion bouillonnante. C'est l'amour du Seigneur. Il faut comprendre cela. Pour bien le comprendre, il faut suivre notre Seigneur Jésus à Gethsémani. Il faut suivre Jésus à Gethsémani. C'est ça, la fureur de Dieu. C'est lorsque le Seigneur Jésus dira « Éloigne de moi cette coupe ». Il ne s'agit pas de la passion, il est venu pour ça. Mais il s'agit de la coupe de la liberté des hommes. Seigneur, fais que les hommes disent tous « Oui, que le sang que je vais verser ne soit pas perdu ». Ici, cette fureur de Dieu, c'est cet amour jaloux, cet amour passionnel que Dieu a pour nous. Et notre liberté qui s'enferme. On avait un texte du prophète Osée cette semaine à la messe. Ils ont tourné leur dos à Dieu au lieu de tourner leur face, leur visage. Si bien que le Seigneur dira ailleurs, qu'il aille et qu'il suive ses vues. Puisque tu ne veux pas suivre ton Dieu, ton Créateur, ton Père qui veut être l'époux de ton âme. Et que je ne veux pas te détruire, alors va, va. Et le prophète dira, ce sont vos péchés qui ont creusé cet abîme entre Dieu et vous. Le Seigneur est comme impuissant, il faut entendre cette parole. Le Seigneur est comme impuissant face à la liberté de l'homme. En refusant leur protecteur, ils sont dans les mains des Babyloniens. Ils brûlent la maison de Dieu, détruisent le rempart, incendient les palais, réduisent à rien les objets précieux. Et tous ceux qui n'ont pas été massacrés sont emportés en déportation. Homme, veux-tu être serviteur, fils de Dieu, ou alors accepte d'être esclave du roi et de ses fils? Il n'y a pas d'autre alternative. Ou bien nous laissons Dieu régner sur nous et à ce moment-là nous devenons libres, libres de toute addiction. Ou bien nous courbons le dos, nous raidissons notre nuque, nous tournons le dos au Seigneur, nous n'en faisons qu'à notre tête. Alors s'accomplit la parole de Jérémie. La terre sera dévastée, elle se reposera durant 70 ans. On peut lire tellement de choses dans l'histoire de l'humanité avec cette grille qui nous est donnée. Récemment, je lisais la Russie, la fin de l'époque tsariste. Les nobles qui se divertissaient, qui parlaient de révolution, plusieurs sont d'ailleurs devenus révolutionnaires, bon. Et les saints qui étaient là-bas, on peut penser à Séraphine de Sarov et d'autres, voyaient les flots de sang qui arrivaient sur la Russie. Séraphine de Sarov disant, il vient le moment où il n'y aura pratiquement pas suffisamment d'anges pour conduire au ciel tous ceux qui mourront au même instant. Le tsar ira se faire bénir par Séraphin, mais une bénédiction n'entraîne pas forcément une conversion. On n'est pas dans la magie, on est dans le retournement de l'âme vers Dieu, mon Seigneur et mon Dieu, mon Créateur. Et toi qui aimes tellement, comme dit l'Évangile, Dieu a tellement aimé le monde, tellement aimé les hommes, qu'il a donné son Fils. Le mot de Dieu, c'est amour. Ne voyons pas un Dieu qui est en train de nous châtier. L'épidémie que nous vivons n'est pas un châtiment de Dieu. Il est au contraire auprès de ceux qui souffrent, mais surtout auprès de ceux qui, à travers peut-être cet événement, sont en train de se convertir, de revenir vers la vie, de cesser de suivre ces fleuves de mort qui, à travers la consommation et le bien-être, nous amènent droit dans un mur. Et puis, il y aura le retour. 70 ans, la terre va se reposer pour compenser tous les sabbats profanés. Mais vient le retour et le Seigneur va prendre un Perse, Cyrus, pour en faire celui qui reconduira le peuple à Jérusalem. La deuxième lecture, l'épître aux Éphésiens. Mes frères et mes sœurs, nous dit-il, Dieu est riche, riche en miséricorde, riche en tendresse, riche en amour, débordant. À cause de ce grand amour, agapé évidemment, dont il nous a aimés, mais c'est toujours le verbe, agapesen, emas, il nous a mis dans son amour miséricordieux et il nous a miséricordiés. Nous étions morts. Ah bien sûr, on peut aller faire la fête au Macumba du coin, peut-être plus tellement aujourd'hui, et être mort. C'est la mort spirituelle. Nous étions morts par suite de nos fautes, par suite de nos ruptures d'alliance, par suite de nos actes idolâtres. Mais il nous a donné la vie avec le Christ. En nous donnant le Christ, il nous a donné la vie nouvelle. C'est par grâce que vous êtes sauvés. C'est gratuitement que nous sommes sauvés. C'est gratuitement que nous venons à l'existence. C'est gratuitement que nous avons une terre, un ciel, un soleil, les fleurs et les arbres, etc., etc. C'est gratuitement que nous avons reçu une âme spirituelle capable de l'émerveillement, capable de la contemplation, capable de la poésie ou autre chose, la sculpture, la musique. Avec lui, le Christ, il nous a ressuscités. C'est fait. Il nous a fait siéger aux cieux dans le Christ Jésus. Paul est en train de contempler le Christ dans l'ascension. Et comme le Verbe éternel a assumé la nature humaine, ma nature humaine, elle est déjà. La victoire, elle est déjà là. le travail, il est déjà fait, il me reste à consentir. Peut-être un des plus beaux mots de la vie spirituelle. Il me reste à consentir à cet amour de Dieu gratuit, gracieux pour moi. Il me reste à dire oui et à mettre mes pas dans les pas du Seigneur. Nous sommes ressuscités avec le Christ, nous siégeons déjà dans le cœur du Père. C'est pour ça que nous pouvons avoir cette audace de dire que lorsque nous passons de ce monde au Père, nous allons vers le Père. Nous retournons à la maison, puisque c'est lui qui a créé cette âme humaine qu'il a déposée dans le sein de la maman qui porte ce petit. Nous retournons à la maison. Un amour nous appelle, un amour nous attend, un amour nous attire. C'est la richesse, dit Paul, surabondante. On n'a pas d'autre mot en français ou en latin ou en grec, surabondante de sa grâce, donc de sa bonté gratuite, de son amour. C'est bien par cette grâce, par cette don gratuit, par cette gracieuseté de Dieu que nous sommes sauvés. Et par le moyen de la foi, il faut quand même la réponse de l'homme. On n'est pas sauvés malgré nous, sinon le ciel deviendrait l'enfer. Il faut que nous adhérions à cet amour, la foi. Je crois en Dieu, Créateur, Père, amour. Et puis, quand on lit la suite, et surtout l'Évangile, on est frappé par le nombre de fois où on dit « afin que », « pour que », « car ». Jésus dit à Nicodème, le serpent de bronze, souviens-toi, il a été élevé. Et tous les fils d'Israël qui étaient mordus par les serpents, lorsqu'ils regardaient le serpent avec foi, avec confiance, ils ne mouraient pas. Et celui qui ne faisait pas cela, il mourait. Eh bien, le Seigneur nous dit, il faut. Le Christ ne meurt pas par hasard. Ne faisons pas de Jésus un pauvre homme qui est passé au mauvais moment, dans la mauvaise époque, dans le mauvais village. Non, il faut. C'est une nécessité pour sauver les hommes. Il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Élevé, l'ascension d'abord. Mais pour l'ascension, pour que notre humanité aille vers le Père, il faut la croix. Donc, Jésus ne dit pas « il faut que le Fils de l'homme soit crucifié ». Il dit « élevé » parce qu'il englobe les deux. L'ascension, il faut qu'il soit vers le Père, mais ça passera par la croix. Et donc, le signe pour nous du salut, c'est la croix. Ne faisons pas de la croix simplement le lieu de la souffrance abominable. Quand j'étais jeune, il y avait une personne qui me disait « enlève la croix, il y en a partout, au village, dans les intersections, sur les tombes, partout, enlevez, c'est trop terrible. » Non, mettez-la partout, c'est le signe de l'amour de Dieu, c'est le signe de notre victoire. Par ce signe, tu vaincras. Il faut qu'il soit élevé afin que tout homme qui croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. On a l'impression que notre Seigneur, il bégaye ou il radote. Non, il est en train de nous dire l'essentiel, l'amour de Dieu. Croyons à l'amour. Ne lui présentons pas notre dos. Car Dieu, donc, afin que, pour que, celui qui croit en Jésus échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique. Et le jugement, le voici. Dieu est lumière, et la lumière est venue dans le monde. Mais les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière. C'était éblouissant. De lumière. Il ne s'agit pas de faire des choses héroïques. Le chrétien n'est pas hors norme. Le chrétien, c'est simplement un homme qui se laisse ressaisir par le Christ. On ne peut pas dire, avec tous ces textes, que Dieu est terrible, Dieu est vengeur, Dieu est un juge courroucé. On ne peut pas dire non plus qu'il est là-haut dans les nuages. Il est là au milieu de nous, à travers son Fils. Mais avant, il a envoyé les prophètes, les juges en Israël. Et il a pardonné. Il revenait vers lui et il pardonnait. Le seul fait d'amorcer un retour vers le Seigneur, et il se précipite vers nous et il nous prend sur son cœur et il dit « Mon fils, ma fille, bien-aimée, on n'a même pas le temps de dire « Aie pitié de moi parce que je suis pécheur ». Ne nous trompons pas, frères et sœurs, de Dieu. N'allons pas du côté des idoles. Allons véritablement du côté de ce Dieu qui n'est qu'une seule chose, amour miséricordieux, miséricordieux amour, tendresse, fidélité, patience, douceur. Que la Vierge Marie, notre Mère, que les saints, ceux qui ont cru à cet amour, et les anges qui contemplent aussi sans cesse la splendeur du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et bien que tous, qui ne cessent d'intercéder pour nous, nous obtiennent peut-être un surcroît de lumière, pour que chacun puisse dire un petit « je crois », que chacun ouvre le volet de son cœur « je crois », peut-être « je veux croire », peut-être « je voudrais bien croire », mais au moins cette petite ouverture pour que tout cet amour, toute cette lumière divine vienne réchauffer nos âmes, vienne vivifier nos cœurs, purifier notre être. Puissions-nous, mes frères et mes sœurs, d'ici Pâques, chacun pour notre part, choisir de reprendre ou de poursuivre le chemin de la réconciliation avec Dieu en vivant le sacrement de réconciliation. On a la chance d'être à côté de Bourg-en-Bresse, on n'est pas si loin d'Ars, où on confesse quasiment au long du jour. C'est essentiel, c'est la rencontre d'un fils, d'une fille avec son père, c'est une rencontre de tendresse. Ne nous échappons pas de l'accolade du père. Nous avons tous besoin de rentrer en grâce avec le Seigneur, parce que tous nous sommes pécheurs, même le juste pêche 7 fois le jour. Allons nous mettre à genoux devant le Seigneur, confessons notre petitesse, nos impossibilités, nos blessures qui souvent nous amènent vers le péché d'une certaine manière, et confessons nos péchés humblement. Oui, je suis pécheur. C'est l'acte de la maturité spirituelle, parce que je reconnais que je suis père de mes actes. C'est pas la faute à Macron, c'est pas la faute à mes parents qui m'ont mal élevé, ou à mes grands-parents, ou à mon conjoint, ou à je ne sais trop qui. C'est moi qui ai posé ces actes. Voilà. Alors il y a des circonstances, oui, mais je suis quand même un homme, une femme libre, et je pose mes actes. Je suis père de mes actes. Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, que ta miséricorde me vivifie, pour que nous puissions entrer au Saint-Jour de Pâques réconciliés avec le Seigneur, pour que ces fêtes pascales qui sont le ciel sur la terre soient vraiment, en réalité, le ciel sur la terre. Nous savons que le Seigneur ne peut pas côtoyer avec un cœur qui n'est pas purifié. Ça n'est pas possible. Ou la lumière, ou les ténèbres. Que le Seigneur nous aide à croire en son amour. Amen. Maranatha, viens, Seigneur.